plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Dire ou ne pas dire la vérité à un patient, privilégier un protocole sanitaire à un autre, apprendre à poser un diagnostic dans l'urgence, contourner encore et toujours les règles d'airain de l'administration. Bref, apprendre à devenir un rouage de cette immense machine qu'on appelle l'hôpital public français. C'est un monde sans pitié que décrit notre invité aujourd'hui, un monde difficile mais plein de gratification et disons-le, parfois de joie immense. Un monde tissé d'alliances implicites, de solidarité diffuse, d'attelages improbables. Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
L'hôpital public français comme un grand corps malade mais qui parvient toujours à marcher et à surmonter les crises. L'hôpital qui est le cœur depuis toujours de votre travail de cinéaste. Thomas Lilti, qu'on pense à vos premières fictions, Hippocrate, Médecin de campagne, Première année, mais aussi à la série Hippocrate dont la saison 2 est diffusée sur Canal+ depuis lundi, ce qui nous vaut le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Une série dont on a adoré la première saison mais sur laquelle la pandémie de Covid, bien sûr, nous oblige à poser un regard différent, plus sérieux, peut-être mieux renseigné. En tout cas, Hippocrate saison 2, 8 épisodes de 50 minutes. C'est sur Canal+ et MyCanal depuis lundi.
Allez, on bouge, on évacue. Aucun patient reste ici. Okay. Je compte sur toi.
Il y a Brun, le chef des urgences, qui veut nous voir.
Je suis désolé, on est obligé de squatter votre service. Et on va avoir besoin de vous trois aussi.
Chloé, Hugo et Alison.
Mais on n'a jamais fait d'urgence, nous.
Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. J'ai pas vu un patient depuis des mois.
Toute personne qui se présente ici doit être vue par un interne au moins. Alors tu prends les cas pas graves, tu remplis, tu signes.
En fait, j'aurais pu faire ça chez moi, pas besoin d'être médecin. On est en mode dégradé. Mais dégradé, vraiment dégradé.
C'est parti.
Dégradé, vraiment dégradé, c'est la bande-annonce de la saison 2 d'Hippocrate, Thomas Lilti. Alors, la première saison racontée sous un mode non dégradé, mais quand même un peu dégradé,
mais toujours dégradé, l'hôpital
quand même,
public
voilà,
français.
Hein. Façon bizutage, la plongée de 3 internes et d'un médecin légiste dans un service de médecine générale. Alors, on les retrouve aux urgences, tous les 4 pour cette saison 2. Donc, on a entendu les voix d'Alison, Alice Belaïdi, qui est toujours un peu le teacher's pet, elle veut être la chouchou du prof, mais qui prend un bel élan dans la saison 2. Hugo, Zachary Chassério, donc le fils à maman, qui lui aussi prend de l'ampleur et de la maturité. Arben, Karim Leclou, qui est l'ancien médecin légiste dont je parlais, qui va rester le personnage le plus mystérieux du quatuor. Et quant à Chloé, alias Louise Bourgoin, c'était la star de la saison 1 avec sa beauté, son talent, son arrogance, sa niaque. Et là, elle revient dans cette deuxième saison affaiblie, assez déstabilisée par son accident. Alors, est-ce que je les ai bien décrits? Je ne sais pas. Vous nous le direz.
Oui, c'est pas mal.
Thomas Lilti. Mais quoi qu'il en soit, vous poursuivez l'idée géniale de la première saison, c'est-à-dire mettre 4 débutants dans une blouse blanche un petit peu trop grande pour eux et voir qui va survivre à ce baptême du feu sous le patronage un peu Full Metal Jacket de leur boss, joué par Bouly Lanners. Alors, pourquoi avez-vous choisi les urgences? Pourquoi on est passé de la médecine gênée aux urgences dans cette saison 2?
Il y a plein de raisons et je vais essayer de les dire de façon assez concise, mais c'est une réponse très importante à une question essentielle. C'est premièrement le plaisir de metteur en scène. C'est pas rien, c'est que quand je tourne la saison 1 d'Hippocrate, à la fin de la saison, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais pas spoiler, mais il y a un épisode qui est un épisode qui a une couleur comme ça d'urgence déjà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et donc je me suis dit, j'ai envie de ce rythme dans la saison 2, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie de sentir comme ça le rythme, le pouls des personnages et des soignants. C'est la première raison, ça c'est un désir personnel. Ensuite, moi en tant que médecin, puisque je suis ancien médecin, J'ai beaucoup aimé travailler aux urgences. C'est un endroit où le collectif s'exprime très fortement entre les différents corps de métiers qu'on retrouve à l'hôpital. Je trouve que c'est un lieu aussi où la hiérarchie hospitalière s'efface un peu. Donc cette fameuse hiérarchie artificielle entre médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, finalement, il ne devrait pas y avoir d'hiérarchie puisque ce ne sont pas les mêmes métiers. Pourtant, il y a hiérarchie et aux urgences, elle a tendance à s'effacer. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis, certainement, l'essentiel, c'est les urgences comme sas d'entrée dans l'hôpital, donc comme vraiment lieu qui raconte le mieux la société, finalement, qui entoure l'hôpital. Si la société souffre, les urgences souffrent, ça c'est certain. Et puis les urgences encore comme endroit un peu méprisé de l'hôpital, par les autres services. Oui, l'urgentiste, c'est celui finalement... c'est celui qui prend en charge les problèmes, les maux de la société, qui finalement nettoie, et puis après... Les vrais médecins, ceux qui vont vraiment aller enquêter sérieusement sur les malades, ils sont dans les étages, comme on dit, ils sont dans les services de pointe. Les chirurgiens, les réanimateurs, les savants. Mais finalement, l'urgentiste, c'est un peu l'ouvrier de la médecine.
Alors,
donc c'est ça qui m'intéressait.
Alors justement, c'est le milieu des urgences. On a rarement le temps de faire un peu d'introspection. Et pourtant, je voulais vous faire entendre un extrait, justement une conversation entre deux amis, donc Hugo, dont on parlait, qui est l'un des quatre membres du Quatuor, et puis son ami Igor.
Ça va ?
Ouais, ça va. Désolé pour tout à l'heure.
C'est pas grave. C'était dur.
Il est en chirurgie ?
Ouais.
Et comment il va ?
On n'a pas trop de suivi des patients. C'est malheur des urgences. On stabilise et on envoie ailleurs. Tu sais, quand j'étais aux urgences, mon premier stage, il y a un gamin qui arrive avec une fracture ouverte du coude. Avec l'os qui sortait. J'ai dû aller vomir.
Ouais. T'as toujours su que tu voulais faire médecine ?
Ouais, je crois, ouais. Mais j'aurais pas dû. 37 heures que je suis debout, je vais en crever. J'y retourne, à toutes.
37 ouais, heures que je suis debout. Alors j'aime beaucoup ce moment parce qu'il me semble qu'on est au cœur de ce qui sous-tend la deuxième saison. C'est-à-dire que la première, pour moi, c'était un peu qu'est-ce qui forge un groupe complètement disparate, quoi, et comment ce groupe va faire équipe. Et là, on est un peu au cœur de la vocation. C'est quoi la vocation ? C'est un mot un petit peu mystérieux parce que c'est un mélange bizarre d'envie, de savoir technique, de talent, et puis d'un truc qui est totalement pas chiffrable, qui est l'intuition, en fait.
Oui, mais en fait, moi, je crois pas trop à la vocation, donc c'est pour ça. C'est pour ça que la façon dont vous essayez de définir la vocation me va bien, parce que finalement, vous la définissez de façon assez floue, les contours sont flous. Qu'est-ce que la vocation ? Parce qu'il y a toujours cette idée qu'on est avec la vocation. Moi, je crois que la vocation, c'est une rencontre en fait avec soi et avec le métier qu'on pratique ou la passion qu'on veut pratiquer ou qui nous anime finalement, et que ça, on peut l'ignorer pendant très longtemps. On peut ne jamais faire cette rencontre. Et l'idée, en tout cas, quand je dis je ne crois pas à la vocation, c'est que je ne crois pas qu'on se sent médecin depuis l'âge, ou soignant depuis l'âge de 10 ans, et puis qu'on sait que c'est ça qu'on sera. Et voilà. Non, ça, j'y crois pas. Je crois que c'est en faisant les choses que la vocation, elle peut se développer. Et c'est vraiment ça, en effet, la saison 2. Ce n'est pas que ça. C'est plein d'autres choses, j'espère, mais c'est aussi ça. C'est comment ces personnages, ces héros, que sont ces jeunes internes, ou ces soignants, je dirais, au sens large, parce que comme j'aime bien le répéter, je pense qu'on peut être soignant sans pratiquer des métiers de soins. On peut être soignant dans sa vie. Certains le sont, ont cette identité de soignant, d'autres non. Mais voilà, ces jeunes gens, ils l'ont, ils ont accédé à ce métier parce qu'ils ont senti qu'ils avaient envie de donner de leur temps, de leur vie à s'occuper des autres. Et ils se trouvent confrontés finalement à cette difficulté, à la difficulté de ce qu'est le soin. Le soin, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est là que se développe ou non la vocation. C'est là qu'on a ou non une vocation qui peut être contrariée par les événements de la vie. Et quand on plonge en effet ces personnages dans la difficulté, dans la violence de ce qu'est l'hôpital public aujourd'hui, la difficulté de le pratiquer, le mal-être que ça peut provoquer, en effet, ça questionne sans cesse la vocation. Est-ce qu'on est au bon endroit ? Est-ce qu'on est compétent ? Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on est suffisamment armé ? Est-ce qu'on a la force de caractère ? Et toutes ces questions-là, elles sont au cœur, en effet, des trajectoires à peu près de tous les personnages.
Mais c'est aussi ce qu'on voyait dans Première Année. Enfin, le personnage de Hugo, qui est le fils de la chef de Réa, effectivement, on lui pose la question. Toi, tu as su quand est-ce que tu as su ? Alors que lui, on a l'impression qu'il a été élevé pour devenir médecin. Donc, il se pose la question de la même façon que le personnage de Vincent Lacoste dans Première Année. Pareil, il suivait... Le personnage de William McGill.
Mais oui, si vous voulez, c'est... Et puis, en fond, c'est... Bon, moi aussi, je suis fils de médecin, évidemment. Cette vocation contrariée, cette culpabilité de ma part d'avoir du mal à pratiquer, quoi, d'avoir du mal...
D'avoir lâché la médecine.
Mais évidemment que d'être... que cette vocation, elle est d'autant plus perturbante quand on a le sentiment d'être là, parce que finalement, ça s'est fait naturellement. On est fils de médecin, on sait que 50% des étudiants en médecine sont des enfants de médecins. Donc c'est quand même énorme, quoi. Au moins un de leurs deux parents qui sont médecins. C'est énorme. Et donc évidemment, on a l'impression qu'on ne mérite pas vraiment, même si on a passé ce concours compliqué, mais on sait bien, si on a un tout petit peu de recul, qu'on n'a pas tant de mérite que ça à se retrouver étudiant en médecine. Par contre, à un moment donné, on est confronté à la réalité. Qu'est-ce que c'est que de devenir médecin ou de devenir soignant ? Et là, c'est une autre paire de manches. Et finalement, c'est ce que découvre le personnage que joue Zachary Chassériau, Hugo. Lui, il se retrouve dans la difficulté, parce qu'il se rend compte que les urgences, eh bien, peut-être qu'il n'est pas vraiment fait pour ça.
Et pour vous, alors sans même parler de vocation, mais pour vous, c'est quoi un bon médecin, Thomas Lilti? Comment ça se définit?
C'est évidemment indéfinissable, parce qu'il y a 1000 façons d'être un bon médecin, autant qu'il y a de façons d'être un mauvais, mais il y a certainement 2-3 choses indispensables. Et certes, la chose la plus importante, et je crois que tous les bons médecins vous le diront, c'est le temps. C'est de prendre du temps, d'avoir du temps pour écouter. À partir du moment où on accepte l'idée, moi j'ai mis du temps à comprendre cette notion, et je suis même pas sûr qu'elle soit juste, mais en tout cas c'est celle à laquelle je me raccroche et que j'essaye de montrer dans la série, c'est que le soin, qu'on soit médecin, infirmier, aide-soignant, peu importe, le rapport au malade et aux soins, le fait d'être un soignant, c'est un échange. C'est le fait de passer du temps avec un malade ou quelqu'un qui a besoin de nous. On lui donne quelque chose, un savoir, une connaissance, mais on reçoit énormément en retour. Et ça demande du temps. Et si ce temps, on ne l'a pas, ce qui est le cas à l'hôpital, aujourd'hui, on n'a plus le temps de travailler, obligatoirement, ça provoque de la souffrance, du mal-être, et on devient un mauvais soignant, on devient un mauvais médecin, bien malgré nous. Ça, c'est, je pense, la définition du bon médecin. C'est le médecin capable de prendre du temps avec son malade.
Du temps de qualité, comme on dit chez les anglo-saxons. Alors, on en reparlera, mais je voulais parler du tournage, parce que le tournage, vous l'avez fait... Enfin, vous étiez en plein tournage au moment du premier confinement, donc en mars...
En mars 2020, il y a un an, un peu plus d'un an.
Voilà.
Vous vous souvenez?
Et je crois que tout le monde
s'en souvient.
Monde entier s'en souvient. Et donc, vous étiez en train de tourner dans un vrai hôpital. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Mais un milliard de choses que je vais essayer de vous décrire rapidement, mais j'étais en tournage depuis 8 semaines. Louise Bourgoin, en plus, ne nous avait rejoint que depuis une semaine. Elle n'avait pas participé pour des raisons d'emploi du temps aux 7 premières semaines de tournage. Donc c'est quand même une des héroïnes. Et donc c'était au bout d'une semaine, on est arrêté. Nous, on voyait arriver l'épidémie. La pandémie, on la sentait venir. On est dans un hôpital, dans une aile désaffectée d'un hôpital en activité. Moi, je suis tout le temps en communication avec les soignants de l'hôpital, les vrais soignants, entre guillemets. Donc la réalité et la fiction, elle passe son temps c'est pas du tout étanche entre la réalité et la fiction dans mon travail sur le tournage. Et puis d'un seul coup, en fait, la réalité devient plus extraordinaire que la fiction que j'étais en train de raconter. On est arrêté, on est confiné. J'ai quelques heures, jours d'angoisse en me disant « Mais en fait, ce que je suis en train de raconter, je suis complètement à côté de la plaque. Finalement, il se passe un truc bien plus important que ma petite histoire de médecin dans mon petit service des urgences. » Et puis, très vite, je me rends compte que, d'une part, non. Je suis en train de raconter exactement ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire un hôpital qui s'est délité, qui n'y arrive plus, qui est débordé. C'est exactement ce que je raconte. Une catastrophe qu'en amènera toujours une autre, au point qu'on arrive à cette catastrophe que personne ne pouvait imaginer, cette pandémie. Et je retourne à l'hôpital. Et le retour à l'hôpital pour aller travailler, là je remets la blouse.
Au service des urgences.
Au service des urgences qui jouxte mon plateau de tournage. Donc il faut voir un service d'urgence débordé. Et moi, un hôpital de fiction qui est grand, hein, qui est quasiment un pavillon entier, qui lui est à l'arrêt, mort, il n'y a plus rien. On prête notre matériel au vrai service des urgences et puis je retourne travailler. Modestement, hein, ça faisait 10 ans que je n'avais pas pratiqué la médecine, donc je reste un peu dans l'ombre des médecins titulaires qui me guident. Mais quand même, et donc ça me provoque beaucoup d'émotions. Pour l'anecdote, je n'ai même pas de stéthoscope, donc je vais piquer un stéthoscope dans la blouse d'un de mes personnages. Donc j'arrive avec mon vrai stéthoscope, qui est un stéthoscope de fiction.
Ce sont des vrais, donc ce ne sont pas que des accessoires de cinéma.
Non, tout ça est vrai. Et d'ailleurs, on va prêter notre matériel, qui est assez conséquent, au service des urgences de l'hôpital Robert Ballanger. Et là, je vais rester 4 semaines dans cet hôpital. Et je pense que, bien malgré moi, et c'était pas du tout l'objectif, à aucun moment je me suis dit « je vais à l'hôpital pour trouver des histoires de fiction », mais c'est vrai que ça va nourrir la suite, et pas tellement dans la réécriture, même si ça a nourri la fin de l'écriture, parce que les derniers épisodes n'étaient pas écrits quand le confinement est arrivé, mais en revanche, ça nous a beaucoup influencés tous, et je pense aux acteurs, aux techniciens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire que quand on a repris le tournage 3 mois après, c'est vrai qu'on était nourris de ce qu'on venait de vivre et on se sentait une responsabilité vis-à-vis des soignants qui était très forte et tout le monde. Et on s'est dit, ce qu'on est en train de raconter, d'une part, c'est important et puis surtout, on ne peut pas rigoler avec ça. Quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire... On doit continuer ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas trahir. Voilà, on ne peut pas trahir ce que vivent les soignants. Et ce qui était difficile, parce que ça donnait beaucoup de responsabilité.
Alors, on en reparlera, mais pour l'instant, on fait une pause musicale avec HK et les Saltimbanques. Danser encore. C'est un choix musical de notre réalisatrice Fanny Renard.
Tous les cinémas du monde.
Nous, on veut continuer à danser encore. Nos pensées enlacées, nos corps, assez nos vues sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacées, nos corps, assez nos vues sur une grille d'accord.
Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance. À l'aube en toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, assez nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, assez nos vies sur une grille d'accord.
Auto-métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Thomas Lilti pour parler de sa série Hippocrate, une saison 2 qui commence par une inondation. Comme disent les psys, ça fait image.
Ouais, c'est sûr, on en parle tout le temps, évidemment.
Oui,
et on,
l'hôpital sous l'eau.
La métaphore, oui, de l'hôpital sous l'eau, du bateau qui coule, des soignants qui vont devoir écoper.
De la vague, hein.
De la vague.
La troisième vague du
Covid. La fameuse vague. Mais c'est
ça
qui
est... Vous disiez, je me souviens au moment de la saison 1, je veux faire une série qui est politique sans être militante. Et en fait, on a l'impression que vous avez été complètement rattrapé par le réel.
Mais le réel, il me rattrape et c'est ça qui est formidable. Et parce que moi, je n'aurais pas voulu traiter du Covid aujourd'hui. On me dit toujours, mais vous feriez une saison sur le Covid ou un film sur la pandémie. Mais là, maintenant, tout de suite, d'une part, on est en plein dedans. On ne sait pas ce que c'est vraiment. Je ne me sens pas de le raconter. Puis surtout, je trouve que ça ne m'appartient pas. Je le dis à chaque fois, mais je trouve que ça nous appartient à tous. C'est des drames humains, des drames économiques. On ne peut pas raconter ça là comme ça. On ne peut pas en faire... Moi, je fais du divertissement. Hippocrate, saison 2 notamment, je vois bien les retours. On me dit c'est très prenant, ça met la boule dans la gorge, la boule au ventre, c'est dur, on comprend ce que vivent les soignants, mais ça reste du divertissement. C'est-à-dire, on peut se divertir avec un sujet sérieux, en essayant de sentir l'émotion, divertir au sens large. Mais alors, divertir avec le drame humain qu'on est tous en train de vivre, plus ou moins. Moi, je suis plutôt protégé par rapport à d'autres, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui sont touchés intimement par cette crise. Donc, je me vois pas faire de la fiction aujourd'hui avec ça. En revanche, le regard du spectateur a totalement changé par rapport à la saison 1. Il regarde cette saison 2, qui en plus raconte le mal-être des soignants, qui en plus raconte la réalité de l'hôpital tel qu'il est, abîmé, fatigué. Ce qu'il a découvert au mois de mars 2020, mais il le raconte avec ce savoir depuis un an. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde connaît la médecine. Tout le monde sait ce que c'est qu'un test PCR, etc. Donc, c'est plus le même regard et ça crée une ironie dramatique très forte. Je crois, hein, c'est le sentiment que j'ai, que moi je ressens également. C'est-à-dire que je racontais une catastrophe amènera toujours une catastrophe sans savoir. C'est ça le point de départ de la saison 2. Une catastrophe, c'est-à-dire l'inondation, c'est pas grand-chose quand même une inondation. Mais on est obligé d'agir à l'hôpital, on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc une inondation va faire qu'on va prendre des décisions qui sont vraisemblablement des mauvaises décisions, mais parce qu'il n'y a pas de bonnes décisions. Et on en arrive à une autre catastrophe, mais jamais j'avais imaginé que cette autre catastrophe serait dans le monde réel. Et ça crée donc cette ironie dramatique. On regarde la série en se disant, mais c'est pas possible, c'est terrible ce qu'ils vivent ces jeunes internes, mais, ou ces soignants, mais c'est impossible. En sachant que le pire est devant eux. Et le pire, c'est la pandémie. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment, je ne pouvais pas maîtriser.
J'ai besoin de tout le monde avec moi, secteur d'urgence, maintenant. Martine, Maël, tout le matériel d'urgence, vous prenez tout ce qu'il y a.
On vient, s'il vous plaît.
Laura, tout le monde avec moi, tout le monde avec moi. Allison, Igor, Allison. Allison, Igor, avec moi. Lazare, il est où? Tout le monde est là? On a 40 monoxydés qui ont débarqué sur le parking. Je veux tout le monde avec moi, tout le matériel avec nous. La rouge, tu nous fais la liste.
Donc, sac d'urgence, testeur, scope, obus à oxygène, matériel de scorage, chaise, brancard. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît.
Et vous prenez vos manteaux, on va rester sur le parking. Il fait froid et ça va durer longtemps. On trie le matériel. Les sacs sur la gauche, les obus à oxygène sur la droite.
Ok, je vais chercher les gants.
Les scopes là, avec les sacs.
On se drape, on
se bouge, on bouge. Les sacs à gauche, les obus à droite. Attention, dégagez.
Voilà. Ça, c'est un hôtel tout entier hein, qui est intoxiqué au monoxyde. Et donc, les urgences sont entièrement mobilisées en plein hiver pour donner les premiers soins sur le parking même de l'hôpital. Alors, on comprend beaucoup de choses dans cet extrait, hein, entre autres que le principal travail aux urgences, c'est d'établir des priorités. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand Monsieur Brun, Bouly Lanners, se dit « Prenez vos manteaux, il va faire froid, ça va durer longtemps. » Parce que ça, c'est un truc qu'on n'entend jamais dans les séries sur l'hôpital. Et pour moi, c'est un peu le côté unique de votre série, Thomas Lipsy, parce que c'est hyper précis.
Je vais vous raconter une anecdote sur cet extrait. Je n'ai jamais raconté cette anecdote et qui est à la fois amusante et totalement... qui raconte un peu cette façon qu'on a de travailler. Bouly Lanners, qui a énormément donné dans cette saison 2 pour réussir à toucher à cette justesse de ce personnage de médecin, mais qui est un petit peu une sorte d'ouvrier, qui est loin du stéréotype d'artisan de la médecine.
C'est un prêtre ouvrier, presque.
Ouais, presque, mais tout à fait, un médecin ouvrier. Et ce qui est drôle, c'est que cette scène, il y a trois dialogues décrits dans le scénario, quand on arrive sur le plateau. Et je sais qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose. Et donc, comme on peut pas faire que de l'improvisation, il y a trop de termes techniques, ce n'est pas possible. Je vais voir mes comédiens quelques heures avant, Bouly Lanners, etc. Et j'écris le texte de Bouly. Et sauf que le texte de Bouly Lanners est vraiment très long et très difficile à apprendre. À ce moment-là, il me dit « je vais pas y arriver ». Et c'est pour ça que dans l'extrait, il dit « Larouche, à toi ». C'est parce qu'en fait, il a appris que la moitié du texte, Larouche étant un autre personnage, qui s'appelle Larouchi, mais qu'il appelle Larouche. Et il dit, maintenant, Larouche, à toi, sous-entendu. La suite, c'est à toi de le dire. Et c'est l'autre comédien qui fait toute la liste, qui dit bouteille d'oxygène, max. Et après, il reprend la parole. Bouly, il dit, vos manteaux, il va faire froid, on va rester longtemps. Donc, c'est tout ça pour dire que toute cette énergie, c'est aussi parce que on l'invente sur le tournage. J'écris sur le tournage pas mal de séquences. C'est très dur pour les acteurs. C'est des heures et des heures de répétition et de tournage pour arriver à cette énergie-là, avoir ce sentiment et trouver les mots justes. Cette association entre l'énergie, les mots justes, la situation, toujours jouer la situation, ce que vous dites sur mettez vos manteaux, c'est que ce que je demande aux acteurs, c'est de jouer la situation. Et la situation, c'est quoi? C'est on va sur un parking, il va faire froid et on va rester longtemps. Donc à un moment donné, on écrit ce dialogue et puis c'est ce qui joue, quoi. Et voilà, donc c'est ma façon de travailler sur le plateau.
Et les répétitions, c'est surtout pour donc l'énergie, le dialogue, bien dire le dialogue, ou aussi les gestes, parce que on les voit pratiquer, je sais pas, faire une intubation, même d'urgence dans une salle de bain où il y a pas
de place,
il y a pas du tout de place. On sent que le geste est technique.
Et, il y a très peu de répétitions, il n'y en a même pas du tout, à vrai dire. Et par exemple, Bouly Lanners, qui était un nouveau personnage, nouveau comédien de cette saison 2, me disait, était mort de trou. Il me disait, mais moi, j'ai vu la saison 1, ils ont l'air crédibles en tant que médecin, mais moi, je n'ai pas du tout travaillé, je ne sais rien faire, je ne sais pas, je ne connais pas. En plus, il est assez hypochondriaque, etc. Donc, il a plutôt une appréhension un peu de la médecine. Et je disais, non, parce que la façon qu'on a de travailler, qui demande beaucoup de temps de tournage, en revanche, c'est un peu un des défauts d'Hippocrate, qui est une série longue à fabriquer. On travaille sur le plateau. Le plateau est un lieu de recherche. Et moi, les gestes, je les connais. Et ce que je connais moins bien, je me fais entourer d'infirmiers, d'infirmières qui les connaissent mieux que moi parfois, ou d'autres médecins. Et on les fait avec les acteurs. Et je leur montre, et ils refont, et on refait ensemble, et je leur montre les gestes. Ça travaille beaucoup par mimétisme, notamment dans tout ce qui est gestes techniques. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est ça la magie aussi du cinéma. C'est-à-dire que, ils jouent un peu phonétiquement, ils comprennent pas toujours ce qu'ils disent, mais comme l'intention, la situation, ils la comprennent, ils la saisissent très bien, à un moment donné, on y croit. Et moi-même, quand je les regarde pendant le tournage, je me dis, mais Bouly, Lanners, Louise Bourgoin, Karim Leclou, ils sont médecins, c'est pas possible, quoi. Ils savent aussi bien que moi, voire mieux, voire beaucoup mieux, ils sont bien meilleurs que moi, d'ailleurs, en tant que médecin.
Et Louise Bourgoin, elle disait que ça avait été une forme de libération pour elle, c'est-à-dire d'être dans le geste, dans le présent du geste, et plus que dans la psychologie du personnage.
C'est une des chances d'Hippocrate, en tout cas, c'est le travail qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de se dire que ce qui compte, c'est le soin. Donc, c'est pas tellement le blabla qu'il y a autour du soin, c'est le rapport au geste, au malade, au corps. Et c'est vrai que ça permet de jouer, je pense, pour les acteurs, ça libère beaucoup, parce qu'ils sont jamais... exceptionnellement, ça arrive par moments dans la série, mais rarement autour d'une table en train de discuter et de commenter ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont essentiellement en train de faire des choses. Et c'est en faisant des choses que finalement ils se parlent et qu'ils apprennent des choses d'eux ou qu'ils communiquent avec les autres. Donc je pense que pour les acteurs, la question n'est pas tellement de savoir est-ce qu'à ce moment-là ils ont une émotion parce que, je sais pas, ils ont un sentiment pour un tel. À chaque fois, la question c'est est-ce que je suis en train de sauver, est-ce que je suis en train de faire le bon geste, est-ce que je fais ce qu'il faut. Donc ça permet, ça libère tout le reste finalement.
Et c'est vrai qu'il y a ce mélange entre quelque chose qui est à la fois super, super sens du détail. Hein. Je pense à la première saison où il y avait ce morceau de musique pop qu'on faisait entendre un bébé grand prématuré, ou au moment où un médecin aussi soigne un grand brûlé en chantant la Marseillaise. Enfin, des choses comme ça qui vous frappent en plein cœur. Et puis, en même temps, un vrai sens du romanesque. Surtout avec Chloé et Arben. Mais pas que.
Non, pas que. Quoi, j'espère. En tout cas, non. Je sais pas faire. C'est pas du documentaire du tout, Hippocrate. C'est réaliste. Ça raconte, je crois, de façon assez fidèle la réalité de l'hôpital. Les gens parfois ont l'impression que j'ai tourné dans un vrai hôpital en activité, ce qui est un compliment. Mais tout ça, c'est que fabriqué, c'est que du romanesque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des grandes histoires. Sont des héros mes personnages. Moi, si je racontais moi ce que j'ai été comme interne à l'hôpital, ça n'aurait aucun intérêt. Ma vie n'est pas intéressante par rapport à celle de mes personnages. Ils sont héroïques au sens romanesque du terme. Ils sont traversés par des émotions et parfois ils prennent conscience aussi de la façon dont ils sont traversés par les émotions. Et c'est ça qui en fait des héros. Donc oui, c'est une série avant tout romanesque. Sauf que ce qui nourrit le romanesque, c'est cet ancrage ultra réaliste. Et c'est ça qui fait peut-être la singularité. J'ai rien inventé. Hein. Des grands cinéastes, c'est bien plus doué que moi, que ce soit des cinéastes ou même en série, qui ont déjà utilisé ce mécanisme de mélanger de l'ultra-réalisme à des écritures romanesques. Mais si on prend les frères Dardenne, par exemple, ou Ken Loach, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire que leur cinéma est extrêmement romanesque, en fait. Et pourtant, on a un sentiment qu'il s'ancre uniquement dans la vraie vie, comme on dit, quoi.
À partir de maintenant, il faut plus bouger du tout. On va faire un scanner pour le ventre. Tout va bien se passer.
Allez, ça va aller.
Respirez tranquillement.
Ça va pas durer longtemps.
Ok, d'accord.
C'est quoi le problème?
Il a mal, il a peur.
Il a très mal et il a très peur.
Ça sert à rien, il est trop agité. J'ai d'autres patients en attente, je suis désolé.
Faut qu'on le sort?
On abandonne.
Allez, monsieur Alves, restez avec moi, attention.
Détachez-vous,
monsieur Alves.
Détachez-moi, Jean.
Tu vas où?
J'arrive.
Alves, regardez-moi.
Détachez-moi.
Tenez, monsieur.
Oui,
ça y est. Viens tout de suite.
On est en pleine réunion, là. Vas-y, continue.
Viens voir mon patient. Viens voir si c'est du confort, là.
Lâchez-moi.
Vous faites apporter les domidates.
Ça vous fait pas mal?
Non, ça va.
Très bien. C'est de notre faute, monsieur.
Désolé. Je vous demande pardon pour ce qu'on vous a fait. On vous a maltraité. Et on vous a aggravé. Je vais vous faire la lèvre maintenant. J'ai plus qu'à essayer de vous réparer.
Voilà, celui qui dit je vous demande pardon, c'est Hugo. Est-ce qu'on peut raconter? Elle est extraordinaire, cette scène.
Est-ce qu'on peut raconter un peu? Alors là, vous avez fait un montage d'une intrigue de l'épisode 6, donc en raccourci un peu toute l'intrigue qui nourrit une partie de l'épisode. Mais il y a plusieurs choses qui me viennent quand j'entends cet extrait. D'une part, il y avait la volonté, et on le sent dans cette saison, avec les auteurs, on a vraiment voulu parler aussi de la... En tout cas, en creux de la pathologie psychiatrique qui est extrêmement présente dans les services d'urgence. Et il y a beaucoup de malades, on voit dans la saison, qui ont des troubles psychiatriques. Et la prise en charge, elle est très compliquée, justement, parce qu'on manque de temps, on manque de moyens. Il y a peu de psychiatres, pour mille raisons, que les internes ne sont pas du tout formés ou très mal formés pour cette prise en charge-là. Et on voit que là, on a un malade, en effet, qui a des douleurs et qui sont vraisemblablement d'ordre psychiatrique. Mais les douleurs psychiatriques, comme le dira Chloé à un autre moment dans l'épisode, sont des vraies douleurs. Il n'y a pas de fausses douleurs, en fait. La douleur, c'est la douleur. Et donc, la question de comment le soulager. Et en effet, Hugo Wagner, joué par Zachary Chassériau, qu'on entend dans l'extrait, on ne lui permet pas, il prend conscience qu'il faut le soulager et il sait comment on pourrait le soulager et on ne lui permet pas de le faire. Et c'est qu'à la toute fin, alors que le malade s'est beaucoup abîmé, qu'il arrive enfin à obtenir ce qu'il veut et donc à faire soulager ce malade. Et à la dernière scène, en effet, il s'excuse du fait que l'hôpital, d'une certaine manière, a maltraité le malade.
Parce que ce que montre aussi cet extrait, c'est un peu les hiérarchies, les castes.
Et les hiérarchies, oui, puisque c'est la chef de service, notamment sa mère, qui refuse de lui donner les médicaments en question. Certainement, parce qu'elle appartient aussi à une ancienne médecine, à une médecine qui est peut-être savait moins bien prendre en charge la douleur.
Oui, c'est ça, qui minimise
encore,
un peu.
Voilà, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais ça a beaucoup progressé. Moi, il y a 20 ans, ça n'existait pas, la prise en charge de la douleur à l'hôpital, ou ça existait très mal. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de progrès qui sont faits. On souffre beaucoup moins quand on est malade à l'hôpital, mais il y a encore, et notamment par rapport à la maladie psychiatrique, je pense, beaucoup de travail à faire. Donc ça, c'est un des sujets, mais ça raconte aussi de façon... Et c'est là que j'essaye de mélanger avec le romanesque, parce que ça, c'est le propos, on va dire, un peu politique ou social de la série. Mais là, ce qui est romanesque aussi dans cet extrait, c'est que le personnage d'Hugo Wagner, c'est un personnage, avec mes co-auteurs, on a beaucoup travaillé ce personnage parce qu'il était mal aimé en saison 1. Pourquoi il était mal aimé? Parce que, en effet, il était un peu lâche, un peu pleutre, et comme il était mal aimé, le comédien qui jouait le personnage d'Hugo, Zachary Chassériau, finalement, était un peu mal aimé. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que...
Vous voulez dire mal aimé sur le plateau?
Non, mal aimé par les spectateurs. On mélange souvent, quand un personnage se comporte mal, on aime moins son comédien. Et moi, ça j'adore.
Mais comment vous avez des retours de popularité sur
On le sent, on le sait quand on parle, oui, mais il y en a sans avoir de retour, on le sent. Ah, moi, j'aime moins le personnage d'Hugo. Mais ah bon, ouais, l'acteur, j'aime moins. Mais pourquoi? Il est super, l'acteur. Mais en fait, quand on creuse, on comprend que c'est parce qu'en fait, ils n'aiment pas le personnage, parce qu'il est lâche, parce qu'il fait des bêtises, parce qu'il avoue pas ses bêtises. C'est vrai qu'il était très chargé.
Il mentait, hein.
Il mentait beaucoup. Eh ben oui, on n'aime pas les menteurs quand on est spectateur. Eh ben là, on a essayé de le porter, de le pousser, et on découvre en fait que c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie pour les malades. Ça a donc potentiellement quelque chose qui est formidable quand on veut être médecin, mais surtout dans un système comme celui-ci, dans un hôpital qui n'arrive plus à bien fonctionner, dans des conditions de travail qui sont terribles, en fait, cette empathie, elle n'est pas un atout et elle l'empêche de faire son travail et de façon très injuste, il se retrouve souvent mis de côté, alors que au fond, c'est peut-être celui qui a le plus la préscience du dysfonctionnement et celui qui a compris que ce service allait dans le mur.
Et vous allez très loin dans cette saison 2, dans la mort, dans la douleur. Hein, cet extrait était en lui-même assez difficile à écouter. Il y aura aussi un pneumothorax manuel. Enfin, je crois que c'est un pneumothorax.
Une exsufflation à cette scène qui commence voilà. Donc beaucoup de gens en parlent. Parce que
pratiquée par Alison, voilà. Qui est un peu gore. La chaîne ne vous dit jamais stop.
La chaîne, quand j'ai écrit la première saison avec mes co-auteurs, ils m'ont dit, s'il te plaît, Thomas... Dans la première demi-heure, on va dire, du premier épisode de la saison 1, ce serait bien qu'il n'y ait pas de choses gore. Et je leur avais dit d'accord. Et puis en fait, mais c'est pas du tout de la provocation de ma part, il se trouve que je me suis pas rendu compte, mais en fait, dès les 10 premières minutes de la saison 1, on voit un escar. Un escar, vous voyez ce que c'est une sorte de plaie vraiment très peu ragoûtante sur le corps. Et on voit une amputation. Quoi, un homme amputé d'une jambe. Mais moi, j'avais même pas conscience que c'est ça, en fait, qu'ils appelaient gore. Puis finalement, c'est resté. Et puis après, on va plus jamais reparler de problèmes. Et je sais que pour le spectateur, parfois, on ferme les yeux, on est dégoûté. Donc d'une part, je pense que quand même, il y a un deal avec le spectateur. C'est pour de faux, en fait. Je veux dire, on a fait de mal à personne. Hein. Tout ça, c'est des effets spéciaux, c'est du trucage, c'est du travail. Ce deal, le spectateur, elle le connaît. Donc ça reste supportable. Et puis après, l'autre deal avec le spectateur, c'est, ben voilà, on va vous montrer comment ça se passe vraiment. Donc on triche pas. Et quand il y a des choses qui sont une fracture ouverte, eh ben on voit une fracture ouverte. Et d'ailleurs, le jeune interne, toujours le fameux Hugo, quand il est face à cette fracture ouverte, ben il fait un malaise en fait et il s'évanouit quoi, comme ça peut arriver à un jeune médecin peu habitué quoi.
Vous, Thomas Lilti, comme spectateur, vous avez consommé des séries hospitalières, c'est un genre, mais enfin au Panthéon, on trouve dans les américaines, on trouve Urgence d'un côté et aussi Dr House dans une autre pour une autre facette, là plus le côté enquêteur.
Il y en a plein finalement qui sont de bonnes séries hospitalières, médicales. Déjà la série médicale et après la série hospitalière qui est un sous-genre de la série médicale. Bon, là on parle de série hospitalière. Moi je suis pas un grand consommateur de séries hospitalières, pas plus que d'autres séries. C'est pas un univers.
Mais à un moment,
que
Urgence, fin des années 90, début des années 2000, était une référence pour les soignants.
C'est une référence, mais c'est surtout moi le Urgence. C'est arrivé en 1994 à la télévision française. Et moi, j'ai commencé mes études de médecine j'ai eu mon bac en 93. Donc, septembre 93, je suis étudiant en médecine. 94, j'ai ma première année de médecine. Donc, je commence à être médecin vraiment à cette époque-là, quoi, médecin. Futur médecin à cette époque-là. Et donc, obligatoirement, Urgence est là. Et le dimanche soir, on regarde Urgence à une époque où il n'y avait pas les plateformes, donc on n'avait pas le même choix. Et j'ai grandi avec Urgence, sans savoir du tout que j'en ferais, qu'un jour je m'en rapprocherais et que je ferais des films ou des séries qui peuvent avoir des ponts. Mais après, j'ai jamais vraiment revu Urgence en me disant, ah, c'est bien ce qu'ils font, on va faire pareil. Mais c'est là, hein, c'est dans mon inconscient. Et Urgence est très fortement dans mon inconscient. Et Dr House, j'aime bien Dr House, hein, mais je me construis plus contre. Et tout de suite, d'ailleurs, dans le film Hippocrate en 2014, il y avait une référence un peu moqueuse, un peu ironique de Dr House. Parce que Dr House, c'est de l'enquête policière. Et moi, c'est tout ce que je veux pas faire. Moi, il y a pas d'enquête policière.
Bien sûr. Mais Dr House, son gimmick, c'est de dire everybody lies, tout le monde ment.
C'est
et il y a effectivement une petite, je pense que c'est un clin d'œil, hein, où on envoie les internes fouiller un appartement.
Hein. Ouais.
On pense à Dr House.
Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup le mensonge. Hein. De toute façon, le secret est très présent, le mensonge. Mais Dr House, j'aime beaucoup. Il y a peu de liens entre les deux d'un point de vue formel ou même dans ce que je raconte. Mais j'aime beaucoup de toute façon comment les Américains ils arrivent à créer des grandes figures romanesques comme le Dr House, quoi, qui fait presque partie maintenant de notre inconscient collectif. Quoi.
Mais alors, l'horloge tourne, hein, Thomas Lilti,
ouais,
on aimerait avoir plus
couper,
de temps.
Hein, ça,
mais quand même, non, je me pose une question quand même, ce paradoxe incroyable, Sophie sera d'accord avec moi, j'en suis sûre, c'est qu'on déteste tous l'hôpital et on adore tous, voire, sauf peut-être vous.
Moi j'ai réfléchi à ça, parce
alors,
que là on est
alors,
toujours,
ah oui,
je suis toujours
on veut savoir.
Déjà quand je voulais faire des films sur l'hôpital, on ne voulait pas que j'en fasse, parce qu'on disait, mais personne n'aime l'hôpital.
L'odeur est la compote de pomme.
Et en fait, moi j'aime bien l'hôpital. Voire, je l'aime vraiment même beaucoup. Et il y a plein de gens qui aiment l'hôpital. Déjà, les soignants, ils aiment l'hôpital. Ils aimeraient bien que leur hôpital aille mieux, mais les soignants, ils sont nombreux, vous savez. Ils aiment l'hôpital. Évidemment, aller à l'hôpital en tant que malade ou en tant qu'accompagnant de malade, personne n'aime. Mais c'est quand même, par contre, on le déteste. Et en même temps, il nous fascine. On a envie de comprendre comment ça fonctionne. On a envie de connaître ses coulisses. On sent bien qu'il y a quand même des gens assez passionnants qui travaillent là-dedans. Si vraiment on le détestait, on n'aurait pas applaudi les soignants au mois de mars et qu'on devrait d'ailleurs continuer à applaudir. Et je pense que c'est un univers pour lequel on a énormément de fascination, d'estime. Et quand on dit aux gens, il faut qu'on en prenne soin. Il faut prendre soin de nos soignants. Il faut prendre soin de l'hôpital. C'est la meilleure façon de prendre soin des malades. J'ai jamais entendu personne dire « Ah ben non, absolument pas, l'hôpital, on l'aime pas. » Au fond, on l'aime. On l'aime, il nous fait peur, mais on l'aime.
Merci beaucoup Thomas Lilti d'être venu nous parler de cette saison 2 d'Hippocrate et rester avec nous pour le journal du cinéma, juste après Balaké, Sissoko et Camille pour un morceau de circonstance. Thank you.
sais pas si mon corps a jour si la froid ou mon corps erre en ce début d'hiver. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené.
C'était Balaké, Sissoko et Camille. Et on termine l'émission, comme d'habitude, avec le journal du cinéma qui, Sophie, commence cette semaine en Chine.
Oui, on a appris que pour la première fois depuis 1969, les Hongkongais ne pourront pas voir la cérémonie des Oscars dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril prochain. C'est jusqu'à présent la chaîne anglophone Pearl qui diffusait à Hong Kong l'événement Glamour. Hein. Elle dit y renoncer pour des raisons commercial, mais le South China Morning Post estime que c'est plutôt sous pression de Pékin.
Et du coup, qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que c'est la victoire possible du film Nomadland de Chloé Zhao ?
Alors oui, rappelons-le, Chloé Zhao, elle a passé son enfance en Chine. Elle est chinoise, mais après, elle a émigré aux États-Unis. Et récemment, elle avait affirmé dans la presse que son pays, vraiment, c'est les États-Unis, ce qui avait fortement froissé à Pékin. Là, visiblement, ce serait plutôt la nomination du documentaire Do Not Split qui pourrait déplaire au pouvoir chinois. Alors, réalisé par le Norvégien Anders Hammer, Do Not Split est un film sur le mouvement démocratique hongkongais donc de 2019, un mouvement des jeunes hein, pour et de tous les Hongkongais d'ailleurs pour réclamer la liberté, quoi, pour réclamer que la tutelle chinoise soit beaucoup moins forte. Une production politiquement biaisée, estime le Global Times, qui met en garde Hollywood. Hein. Je cite :« Les Oscars ne devraient pas être réduits à des outils politique, sinon cela va heurter les sentiments du public chinois et pourrait mener à une perte importante sur le marché du film chinois qui a dépassé le box-office américain pour la première fois l'an dernier. Donc bon, vous avez compris, hein, si Hollywood veut conserver ses parts de marché, il faut faire attention effectivement à sa politique.
Et à l'heure où les salles de cinéma rouvrent timidement hein, dans quelques villes américaines, alors qu'Emmanuel Macron laisse entrevoir une possibilité de reprise culturelle à la mi-mai, alors qu'on espère qu'un festival de Cannes pourra se tenir au mois de juillet prochain, eh bien les professionnels font les comptes des films sur les étagères et c'est l'embouteillage assuré.
Oui, voire même le carambolage attendu.
Voire même le chaos.
En France, hein, entre films français et étrangers, ce sont 420 films qui attendent un écran noir, autant dire qu'à la réouverture des salles qui risque déjà de se faire sur un mode dégradé avec uniquement un tiers des sièges disponibles, eh bien les films à petit budget pourraient bien être sacrifiés, surtout si les blockbusters hollywoodiens débarquent en nombre.
Et face à cet afflux de films prévisibles, le CNC a décidé de faire un geste.
Ouais, on va pas vous déprimer, hein, Thomas Lilti.
Non, mais je suis au courant de toutes ces nouvelles, évidemment.
Et oui, alors le CNC a donc décidé de permettre aux distributeurs de sortir les films directement sur Canal+ et les plateformes de streaming sans perdre les aides qui avaient été attribuées préalablement, comme par exemple des crédits d'impôt ou des avances sur recettes. Alors évidemment, le CNC analysera chaque dossier au cas par cas et il y aura des concertations.
Et certains films français faits pour la salle, hein, enfin, initialement faits pour la salle, sont déjà disponibles, Sophie, sur les plateformes.
Oui, alors bien sûr. Oui. Et c'est le cas notamment de Madame Claude, le nouveau film de Sylvie Vered, disponible sur Netflix.
Allez, 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 rangez-moi tout ce bordel, Marlon Brando arrive dans 15 minutes. Allez, allez.
J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes.
Hello, nice to meet you.
Il y en a même qui doutent de mon existence. D'autres pensent que je suis un homme.
Pourquoi je vous engagerai?
Vous avez une idée de génie? Prendre l'argent où il est.
Alors elle se raconte en voix off, hein, et se qualifie elle-même dans le film de maquerelle de la République. Et pourtant, la vraie Madame Claude détestait ce surnom, mais elle régna bien sur le milieu dans les années 60-70, fournissant des prostituées de luxe aux hommes politiques, aux industriels, aux grands bourgeois de l'époque. Elle avait choisi un pseudonyme alors plutôt masculin, même si on sait qu'il y a des femmes qui peuvent s'appeler Claude, hein. Et cette proxénète voulait faire jeu égal avec les parrains de l'époque, Joatia ou François Marc-Anthony, que l'on aperçoit en second plan. La réalisatrice Sylvie Vered dresse le portrait d'un personnage ambigu, symbole d'émancipation sexuelle et sociale, mais aussi quand même un monstre, hein, quand même un psychopathe exploitant sans état d'âme quelques 200 jeunes femmes. Alors donc Madame Claude, le film de Sylvie Vered, flirte avec le film d'espionnage porté par une magistrale Carole Rocher et montre sans voyeurisme ni complaisance la grandeur et la décadence d'un gangster au féminin.
Voilà, et c'est donc sur cette recommandation, Sophie, de voir Madame Claude sur Netflix qu'on termine cette émission. Ne ratez pas non plus sur Canal+, hein, cette formidable deuxième saison d'Hippocrate. Thomas Lilti, merci. Merci d'être venu nous en parler. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission réalisée par Fanny Renard. Au micro, Sophie Torlotin et Elisabeth Le Quéré. À l'affiche, la semaine prochaine, un immense cinéaste qui nous vient du Mali, Souleymane Cissé, sera notre invité spécial. Et d'ici là, bonne semaine à tous.